Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Diaran Diaye.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver derrière ce micro. Priorité Santé parle aujourd'hui de l'incontinence urinaire. Notre sujet du jour est souvent vécu comme une honte. Cette pathologie concerne des millions de personnes, des femmes et d'hommes dans le monde. Beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine, il s'agit d'un phénomène encore tabou dans la société. Et contrairement aux idées reçues, l'incontinence ne touche pas uniquement les personnes âgées. Cela dit, c'est en aucun cas une fatalité. De nombreux traitements et solutions existent. L'éducation à l'hygiène pour les jeunes, la rééducation, les médicaments et même la chirurgie. Quels sont les différents types d'incontinence urinaire? Quelles sont les causes et quels sont les moyens de prévention? Pour en parler, je suis avec le professeur Emmanuel Chartier-Kessler, chirurgien urologue à l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur à une Sorbonne Université. Bonjour.
Bonjour.
Et en cours d'émission, nous aurons au téléphone en direct du Gabon, docteur Jean Massandé, chirurgien urologue, andrologue et chef de service d'urologie du centre hospitalier de Libreville au Gabon. Et puis l'Institut Pasteur célèbre ses 130 ans cette semaine. Nous en parlerons en fin d'émission avec Noël Tordo, directeur de l'Institut Pasteur de Guinée. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler le numéro de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Chartier-Kessler, alors on va commencer par expliquer ce qu'est cette maladie. Il y a plusieurs types d'incontinence. Quels sont ces types ?
Alors oui, l'incontinence urinaire, il faut bien retenir que c'est un handicap. C'est-à-dire c'est une altération d'une fonction normale de l'organisme. Normalement, on doit être capable de retenir ses urines, on les stocke dans la vessie. Et puis, il y a un système de robinet qui s'appelle les sphincters. Et le déséquilibre de fonctionnement, soit de la vessie, soit des mécanismes de retenue, peut faire qu'on ait des fuites. Et l'incontinence sont des fuites involontaires que le patient ressent ou ne ressent pas selon les circonstances et les causes, avec deux grandes catégories d'incontinence. L'incontinence urinaire d'effort, qui est celle qui intervient quand on court, on tousse, on rit, on saute, très connue malheureusement par les femmes qui viennent d'accoucher, qui généralement est résolutive après la récupération, mais qui avec l'âge peut survenir et nécessiter des traitements. Et puis l'incontinence par urgence, l'incontinence par impériosité, les patients disent quelquefois impétuosité vésicale. Oui. Dans notre jargon, on appelle ça une urgenturie. Et le patient l'explique très bien, il a une envie pressante, soudaine, urgente d'aller aux toilettes. Et avant d'arriver aux toilettes, la fuite va survenir. C'est un réflexe qui se met en route, qui ne peut pas être contrôlé, et qui est une incontinence très invalidante, puisque par principe, vous ne pouvez pas la prévenir par vous-même, puisque ça va survenir de façon imprévisible. Et effectivement, les patients viennent requérir un traitement.
Et parfois, il y a même une incontinence mixte, c'est-à-dire ça mélange un petit peu ces deux types d'incontinence qu'on vient de citer.
Alors effectivement, en médecine, le problème, c'est que c'est rarement tout blanc ou tout noir, et que beaucoup de patients ont les deux mécanismes associés. Alors, ça va être le rôle du thérapeute et des explorations, d'essayer de déterminer quel est le mécanisme prédominant, et de traiter le mécanisme prédominant, le deuxième mécanisme étant souvent la conséquence du premier. Donc on arrive à gérer les choses ainsi.
Et est-ce qu'il y a une de ces incontinences qui est plus fréquente ?
Globalement, on peut estimer qu'on répartit dans une population à 30% pour chaque type d'incontinence. Il y a au moins 30 à 40% de gens qui souffrent d'incontinence mixte, c'est-à-dire à la fois des fuites à l'effort et de la fuite par urgenturie.
Est-ce qu'il y a une différence, plutôt quelle est même la différence entre l'incontinence urinaire et la vessie hyperactive ?
Alors la vessie hyperactive c'est un syndrome, c'est-à-dire que les patients qui décrivent avoir des envies fréquentes et pressantes d'uriner, avoir éventuellement une incontinence associée à ces envies fréquentes et pressantes, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. C'est une définition clinique, c'est-à-dire que ce sont les symptômes dont se plaint le patient. Et on va traiter, nous, les symptômes, à condition d'avoir vérifié qu'il n'y ait pas d'autres problèmes sur la réservoir vésicale ou d'autres maladies associées.
Et quels facteurs peuvent augmenter le risque de ces incontinences urinaires ?
Alors, l'incontinence urinaire, il y a des facteurs de risque. Il faut les différencier selon le type d'incontinence. Dans l'incontinence d'effort, dans les facteurs de risque, c'est tout ce qui va augmenter la pression abdominale. Donc, les grossesses et les accouchements sont un facteur de risque. Le surpoids est un facteur de risque. Et toutes les pathologies qui peuvent augmenter la pression abdominale, c'est-à-dire la bronchite chronique, quand vous toussez fort et souvent, la constipation qui fait que vous allez pousser sur le périnée et abîmer un peu les mécanismes anatomiques. Donc, pour l'incontinence des forces, c'est assez connu et ça peut se prévenir, le surpoids étant un facteur majeur.
Durant l'intro, j'ai dit qu'à peu près l'incontinence touchait 25% des femmes et 15% des hommes. Comment expliquer cela ?
Alors, ces pourcentages sont variables selon la définition qu'on prend de l'incontinence, parce que selon qu'on demande dans les enquêtes si des patients ont eu un épisode de fuite par mois ou un épisode de fuite par jour, les pourcentages ne seront pas les mêmes. Disons que effectivement, si une enquête en médecine générale avait montré que dans une consultation tout venant de généraliste, 25% des femmes qui viennent en consultation, quel que soit le motif de consultation, ont peu ou prou une incontinence. Mais plus des trois quarts n'ont jamais cherché un traitement parce qu'elles n'ont pas osé en parler. Et donc, j'allais dire, plus que l'incidence et le nombre de patientes ou de patients, le plus important, c'est que le tabou soit levé et que les patients osent en parler, sachant qu'il n'est pas très facile d'en parler à sa famille et pas plus facile d'en parler à son généraliste, même si on est en confiance. Parce que ce sont des régions intimes et que ce sont des fonctions d'organismes qui restent très intimes dans leur utilisation quotidienne.
Comment vous tentez-vous de briser ce tabou quand un patient vient vous voir, par exemple, et qu'il ose enfin en parler ? Comment on va plus en profondeur avec lui ?
Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, c'est d'abord de mettre le patient en confiance dans la conversation en lui montrant que nous, on en parle aisément. Alors évidemment, on a beau jeu d'en parler aisément, espérant ne pas en souffrir nous-mêmes, mais le principe étant de les mettre à l'aise par le caractère organe qui ne fonctionne plus, comme une hanche peut être douloureuse, comme un foie peut avoir une maladie, la vessie peut souffrir de troubles. Il faut prendre ça sous l'angle de l'organe et pas sous l'angle du symptôme dans une région génitale qui est forcément une zone de pudeur. Les patients, en fait, quand ils sont très gênés, de toute façon, vont venir en parler. Donc la gêne, qui est le premier moteur de la prise en charge et qui doit être pour nous, thérapeutes, la seule raison de les prendre en charge, est un élément qui est mis en valeur dans la discussion. Qu'est-ce que vous ne faites plus dans votre vie quotidienne ? Et quand les patients réalisent qu'il y a des activités qu'ils ne font plus, ils reviennent aux symptômes et ils osent en parler. Alors, je dois dire aussi que d'en parler dans une émission comme la vôtre, ou de voir qu'aujourd'hui les grands magazines sont capables d'en parler régulièrement, il y a des semaines de l'incontinence tous les ans avec l'Association française d'urologie, tout ça procède d'une levée du tabou.
Vous parlez justement des symptômes, des prémices de ces symptômes. Quand est-ce qu'on doit consulter ?
On doit consulter d'abord la moindre fuite devrait pousser les patients à consulter pour les rassurer, parce que quelquefois c'est tout à fait banal. Sachez que si vous faites une cystite, la cystite peut générer une incontinence par urgenturie, parce que
la cystite, c'est
l'infection urinaire. Mm-hmm. Beaucoup de femmes connaissent ça. Elles peuvent avoir à ce moment-là une envie pressante et une petite fuite. Ça va disparaître avec le traitement de l'infection, donc c'est tout à fait bénin. Donc on peut les rassurer. La patiente ou le patient doit consulter en fonction de la gêne. Peut-être qu'il vaut mieux consulter en amont, même quand on n'est pas très gêné, pour avoir réalisé ce que c'est et savoir comprendre quand les choses s'aggraveront et revenir à temps pour ne pas laisser passer des années de qualité de vie. Parce que c'est toujours la discussion avec les patients qui ont attendu un peu et quand ils sont guéris ensuite par un traitement, de regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais nous ne sommes pas là, nous, en tant que médecins, pour leur imposer un traitement. On est là pour améliorer une qualité de vie, traiter une gêne et, dans certaines situations très particulières, éviter l'altération des reins. Parce qu'il y a certaines incontinences qui peuvent être associées à des maladies qui peuvent menacer les reins.
D'ailleurs, les femmes, elles vont voir un gynécologue ou un urologue ?
Les deux. Les deux, l'urologue est le spécialiste des voies urinaires et des maladies de l'appareil urinaire, donc le spécialiste de l'incontinence. Le gynécologue, il est le spécialiste du périnée avec nous. Et les femmes étant suivies par les gynécologues pour leur vie obstétricale, il est naturel que les gynécologues les voient. Globalement, aujourd'hui, beaucoup de femmes commencent leur prise en charge avec leur gynécologue, mais dès que les troubles ne sont pas très simples, il est fréquent que l'urologue soit associé à la prise en charge.
Et quels sont les examens nécessaires au diagnostic de cette incontinence urinaire ?
Alors, le premier examen, tout patient qui nous écoute ou toute patiente qui nous écoute peut le faire chez lui ou chez elle, c'est le catalogue mictionnel. C'est de marquer sur une feuille les heures et les volumes quand on urine, et ainsi d'analyser soi-même le fonctionnement de sa vessie. parce que certains constateront tout seuls que quand ils vont uriner et qu'ils ont eu une fuite, ils ont 1 ml ou 800 ml dans la vessie.
Il y a une quantité normale à éliminer d'urine ?
Une vessie, normalement, contient entre 300 et 400 ml. Si les patients urinent peu souvent avec des vessies trop pleines, peut-être que simplement en allant uriner un peu plus souvent, en évitant le surremplissage, on va prévenir certains symptômes.
Donc quand on a envie d'aller aux toilettes, il faut vite y aller.
Il n'est pas de raison de retenir trop. La vessie et la physiologie sont ainsi faits que les besoins apparaissent progressivement au fur et à mesure du remplissage. Quand on a passé le besoin qui ne passe plus, il est temps d'aller aux toilettes et d'essayer de ne pas trop se retenir.
Alors, on a justement des auditeurs et qui veulent nous poser des questions. Les questions sont nombreuses. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 80 82 75 75. Et tout de suite, on va prendre notre première auditrice en ligne, Ami. Elle nous appelle de Dakar au Sénégal. Ami, bonjour.
Oui, bonjour, Diara.
Ami, vous avez la parole, on vous écoute.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
En fait, comme je l'avais dit au standard, moi, mon problème en est que si je bois de l'eau dans 5 minutes, j'aurai besoin d'urine. Et si je résiste, j'ai des fuites, ça vient comme ça. Ça coule sur ma tête.
Donc, si je comprends bien, Ami, vous avez des envies pressantes d'uriner dès que vous avez bu et ça peut aller jusqu'à la fuite.
Oui.
Est-ce que vous avez eu des enfants, Ami ?
Non, du tout, pas encore.
D'accord. Et est-ce que quand vous étiez enfant, vous aviez le même problème ?
Non, non.
Voilà. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver quand on a à votre âge et qu'on n'a jamais eu de facteurs obstétricaux et que dans l'enfance, il n'y avait pas de problème de fuite d'urine la nuit ou d'envie fréquente. Il faut savoir qu'une des causes fréquentes d'envie pressante d'uriner, comme celle que vous décrivez, peut être le stress. C'est-à-dire que la vessie est le reflet des tensions de l'organisme. Et chez certains patients, simplement, il faut savoir analyser si quand vous avez ces phénomènes, est-ce que c'est lié à des activités professionnelles, à des activités privées, à des activités, des hobbies que vous avez, et savoir comprendre si les deux peuvent être liés. Maintenant, le premier examen à faire, c'est l'examen d'urine pour être sûr que vous n'avez pas de cystite et pas d'infection. Et puis faire ce petit test dont je parlais à l'instant avec Diara qui consiste à marquer sur une feuille les heures et les volumes quand vous urinez. Ainsi, vous allez analyser le fonctionnement de votre vessie, vous pourrez voir votre médecin et en parler avec lui.
Ami, vous avez déjà consulté autour de cette question d'envie pressante d'uriner ?
Non, pas encore.
D'accord. Alors quand vous consulterez, faites ce petit test qui s'appelle le catalogue mictionnel. Vous trouverez un modèle sur Internet, il y en a dans toutes les sociétés, tous les sites de sociétés savantes. Et vous verrez que ça va vous aider déjà à comprendre votre symptôme.
D'accord.
Merci beaucoup pour votre appel, Ami. On a également Mathias qui nous appelle de Niamey. Mathias, posez votre question, on vous écoute.
Bonjour, docteur.
Bonjour, Mathias.
Je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai le problème que j'ai, il y a à peu près un mois. Donc, j'ai remarqué que quand j'ai envie d'aller au faire des urines, si je ne me presse pas, j'ai des fuites.
Oui.
Ça a commencé il y a à peu près un mois. Donc, 5 jours après, ça s'est arrêté.
D'accord.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça a commencé à impacter sur ma libido. Je n'ai plus envie d'aller de toucher à ma femme. Je suis devenu faible. J'ai senti que je suis devenu faible. Mm-hmm. Et à chaque fois que j'ai envie d'uriner, je peux me retenir. Hein, je peux me retenir pendant presque même une demi-journée sans aller aux urines. Mais quand la vie me prend, des fois, avant d'ouvrir la braguette, ça commence déjà à couler.
Très bien. Donc, Mathias, on aborde un sujet différent, puisque, étant un homme, vous avez une prostate. Et à votre âge, il peut arriver que la prostate commence à donner des petits symptômes en gênant la puissance du jet, faisant que la vessie ne se vide pas très bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que vous avez la vessie bien vidée et une échographie pourra être faite avec votre médecin. Et vous avez abordé un sujet très important. Tous les troubles urinaires, comme celui que vous décrivez à l'instant, vont avoir un retentissement sur la sexualité. Et donc, il est probable qu'en fait, indépendamment de l'événement récent d'incontinence que vous décrivez, vous ayez une gêne pour uriner ou des troubles urinaires au quotidien qui finalement finissent par retentir aussi sur votre vie sexuelle. Donc, c'est certain qu'il faut aller vous faire examiner, voir votre médecin pour votre prostate, vérifier que la vessie se vide bien. Et je suis pas très inquiet, a priori, sur votre affaire personnelle. N'oubliez pas, quand il y a des envies pressantes qui apparaissent comme ça, votre médecin devra vérifier que la vessie n'a pas de maladie, qu'il n'y a pas de calcul. C'est pour ça que l'échographie est un très bon examen de débrouillage.
Mathias, vous avez d'autres questions?
Oui, j'ai une question. Est-ce que l'incontinence urinaire est héréditaire?
Est héréditaire? La réponse est non. Non, c'est des facteurs individuels. Il y a quelques très maladies très rares, mais dans ce que vous racontez, il n'y a rien d'héréditaire, absolument pas.
Merci beaucoup pour votre appel, Mathias. Et bon courage, et surtout, n'hésitez pas à consulter. Professeur Chartier-Kessler, justement, ça me permet de poser une autre question. L'incontinence, là, c'est finalement un signal d'alerte pour d'autres pathologies. Hier, par exemple, j'ai fait une émission concernant le diabète, et on parlait aussi de cette envie d'uriner pressante. Donc, c'est aussi... ça nous aide finalement, même si ça dérange, ça peut aussi aider à signaler un autre dysfonctionnement.
Alors j'apprécie beaucoup votre question parce qu'en fait l'urologue, il est le médecin interniste de la vessie. Et en fait autour de la vessie est sous commande du système nerveux. La vessie se remplit par de l'urine qui est sécrétée par les reins. Et donc beaucoup de symptômes urinaires, y compris l'incontinence, peuvent être liés en fait au retentissement d'une autre maladie. Vous parliez du diabète, il y a une trop grande production d'urine dans le diabète qui peut faire que du coup la vessie se remplissant trop souvent, on va souvent aux toilettes. Dans le diabète, il peut y avoir une atteinte neurologique qui fait que la vessie se contracte moins bien, donc elle ne se vide plus. Toutes les maladies du système nerveux peuvent atteindre...
Vous avez évoqué la prostate aussi.
Alors la prostate, mais en finissant sur les maladies du système nerveux, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les paraplégiques, c'est une maladie plus rare et qu'on souhaite à personne, bien sûr, peuvent donner des troubles des fonctions urinaires parce que la vessie est sous commande du système nerveux. Et puis la prostate chez l'homme, bien évidemment. La prostate, c'est un organe qui participe à la fécondité. Et cette prostate, en grossissant avec l'âge, c'est presque normal chez tous les hommes, peut entraîner une réduction de la puissance du jet. Et de ce fait, la vessie peut avoir des envies fréquentes ou pressantes parce que le jet est difficile.
On a justement Jean qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Il a une question autour de cet organe qui est la prostate. Jean, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour,
oui,
Jean.
Bonjour, docteur.
Jean, posez votre question, on vous écoute.
Oui, j'ai trois préoccupations là. J'ai été opéré de la prostate au mois de mai de 2017. Et mon souci, c'est la fréquence des besoins d'uriner. Du matin à midi, je peux évacuer 3 à 4 fois.
Mmh.
Plus, ça fait plus si je consomme beaucoup d'eau. En plus, il m'est difficile de vider la vessie.
Oui.
Donc, à cet moment, c'est comme si l'urètre se bloque automatiquement et puis j'ai le besoin d'uriner hier, mais ça ne sort pas, je pense que ça ne sort pas.
Très bien. Voilà. Dites-moi, Jean, vous avez été opéré de la prostate pour un cancer ou pour une maladie bénigne?
Non, pas pour un cancer. Justement, je craignais cela, mais c'est pas pour un cancer.
Donc, on vous a enlevé ce qu'on appelle un adénome de la prostate. C'est un obstacle qui gêne pour faire pipi et on vous a opéré de ça. C'est
en
ça.
En fait, c'est une ablation qu'ils ont fait, hein.
Oui, c'est ça. Ils ont enlevé, je pense, l'adénome. Et donc, les symptômes que vous avez aujourd'hui, ils peuvent être de plusieurs... Il y a plusieurs raisons. Soit c'est, en fait, les mêmes symptômes que ceux que vous aviez avant et, en fait, la vessie ne se vide pas bien parce que vous décrivez assez bien que vous avez la sensation que ça ne se vide pas bien. Mais vous pouvez aussi avoir un rétrécissement du canal de l'urètre ayant été opéré. C'est des choses qui peuvent arriver dans les phénomènes de cicatrisation, de voir le canal qui se rétrécit, qui ne se bouge pas complètement, mais qui réduit la puissance du jet. Donc je commencerai par revoir mon urologue pour qu'il fasse une endoscopie, qu'il vérifie dans l'urètre qu'il n'y a pas de problème, et puis ensuite d'analyser la vidange de la vessie et de comprendre si c'est votre vessie qui se contracte mal ou s'il y a encore une partie d'obstacle qui peut gêner. Mais ce que vous décrivez nécessite très clairement de revoir le sujet.
Jean, est-ce que vous avez entendu les recommandations du professeur Chartier-Kessler?
Oui.
Vous avez une autre question?
Oui, j'ai une autre préoccupation. C'est que, bon, la nuit, j'ai des sensations de brûlure du côté gauche de la vessie.
Du côté gauche de la vessie?
Bon.
Oui,
côté gauche de la vessie, je sens de brûlure. Bon, ça a été depuis avant l'opération. Mm-hmm. Non, pas vraiment. J'ai consommé beaucoup de produits, mais
Alors,
on n'a pas pu changer
d'accord.
grand-chose.
Oui.
Et puis, je le constate la nuit. Maintenant, les fréquences d'urine, c'est quand je suis sur place. Mais quand je suis en mouvement, en tout cas, bon, ça va. Quand je suis en mouvement, ça va. La fréquence est réduite.
D'accord. Donc, Jean, il va être difficile, bien sûr, de faire le diagnostic d'une douleur ainsi au téléphone. Mais en pratique, je vous invite vraiment à être réexaminé et à refaire le point avec votre médecin parce que très clairement, vous avez une partie de vos problèmes qui ne sont pas encore réglés. J'en profite pour parler un peu des envies de se lever la nuit, qui à votre âge peuvent ne pas être liées qu'à la prostate, mais liées au fait que la nuit, on peut fabriquer plus d'urine que normal. Et c'est un phénomène lié à l'âge, ou ça peut être un phénomène lié à des troubles du sommeil. Donc, il faut à nouveau faire ce test qu'on appelle le catalogue mixtionnel et relever les volumes. Parce que même si 55 ans, vous êtes jeune, la nuit, vous pouvez vous lever souvent parce que vous fabriquez trop d'urine et ça peut s'analyser aussi.
Décidément, il est très utile, hein, ce fameux catalogue
très
mixtionnel.
Très utile et il ne coûte rien au service, à l'assurance maladie, quel que soit le pays.
Merci infiniment pour votre appel, Jean. Et bonjour à tous nos auditeurs de Brazzaville au Congo.
RFI à Libreville, 104 FM.
Et nous avons en ligne le docteur Jean Massandé, chirurgien, urologue, andrologue et chef de service d'urologie du centre hospitalier de Libreville. Bonjour docteur.
Allô? Bonjour madame.
Alors,
oui, bonjour madame.
Oui, on vous entend. Docteur Jean Massandé, est-ce que ces troubles sont aussi fréquents, ces problèmes d'incontinence urinaire sont fréquents au Gabon?
Bon, je dois dire que la prévalence est méconnue parce que comme toutes les pathologies en dessous de la ceinture, en Afrique, ces pathologies restent tabou parce que les patientes en général qui en souffrent n'osent pas se dévoiler au niveau dans l'entourage immédiat ou même chez le médecin traitant. Donc, mais c'est des pathologies qui existent parce qu'on en voit de plus en plus de femmes qui viennent consulter pour ces problèmes de continence urinaire.
Et il y a madame qui vient de vous consulter?
Les hommes, c'est un peu rare, mais vous savez, les hommes, toutes les pathologies liées aux incontinences relèvent de la prostate et surtout de la chirurgie de la prostate. Maintenant, en ce qui concerne les hommes, le plus souvent, il s'agit de ce qu'on appelle des pseudo-incontinences qui se manifestent par des mixtions par régorgement, c'est-à-dire que le malade va évacuer le trop-plein. C'est souvent lié à un obstacle prostatique. Ou bien le plus souvent des incontinences liées à la chirurgie qu'on a faite sur une prostate, lorsque le sphincter a été lésé, ou bien s'il y a une infection urinaire associée.
Alors, on a parlé de deux types d'incontinences avec le professeur Chartier-Kessler, par l'effort et par impétuosité. Est-ce que il y a un de ces problèmes qui est plus fréquent que l'autre au Gabon?
Les deux existent, parce qu'en fait, lorsque la femme vient consulter, c'est le médecin qui détermine maintenant, en fonction de l'anamnèse, en fonction de l'interrogatoire, de quelle incontinence il s'agit. Mais ce qu'il y a, c'est que les deux existent, parfois c'est même mixte. Bon, je vais prendre une anecdote. Il y a une dame qui est venue me voir dernièrement, qui est venue pour d'autres troubles urinaires, à savoir une dysurie avec brûlure mutuelle, mais il me déclare à la fin, finalement, docteur, mais j'ai l'habitude de perdre un peu les urines à l'effort. Ce qui corrobore un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que les gens s'expriment difficilement, donnent difficilement l'information sur leur handicap.
Ah, vous êtes aussi confronté au tabou comme ici, en France également. Et à partir de quel moment les Gabonais viennent vous consulter du coup?
Bon, il y a plusieurs cas. Souvent, le malade, la dame a été adressée par un collègue, un généraliste ou bien un gynécologue, parce que ce sont souvent des femmes qui s'adressent au gynécologue en priorité. Pourquoi ? Parce que effectivement, chez nous, j'ai l'impression que les dames ne savent pas exactement où aller. Parce qu'en dehors du fait que l'incontinence urinaire soit tabou en Afrique et dans nos régions, mais en plus, il y a l'information sur qui doit traiter ces pathologies. Le plus souvent, ce sont des gynécologues qui nous envoient. Souvent, il peut s'agir aussi de médecins généralistes qui après une évaluation, vous envoient chez l'urologue.
Et quand un patient vient vous voir, vous qui êtes urologue, quel type d'examen vous procédez ?
Bon, l'examen clinique d'abord, après l'interrogatoire, parce qu'en fait, nous avons toutes sortes de d'explorations, à savoir l'urodynamique dont a parlé le professeur Emmanuel tout à l'heure. On peut faire un examen urodynamique, on peut faire une échographie, on peut faire une radio de la vessie pour voir un peu, et puis on peut faire même une cystoscopie, c'est-à-dire aller regarder. Nous avons tout ce qu'il faut sur le plan matériel pour explorer des incontinences urinaires, quel que soit le type d'incontinence.
Est-ce que vous recommandez, vous aussi, ce fameux catalogue mictionnel à vos patients ?
Oui, mais il n'est pas facile, il n'est pas disponible, c'est les seuls éléments, mais... toujours est-il que l'interrogatoire peut nous suffire largement pour pouvoir détecter une incontinence urinaire, qu'il s'agisse d'une incontinence urinaire d'effort ou bien d'une urgenturie.
Et pour une incontinence d'effort, par exemple, comment vous traitez vos patients ?
Alors, le traitement dépend de l'étiologie. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements, des traitements médicaux, c'est-à-dire les médicaments. C'est facile à obtenir puisque nous avons une couverture d'assurance maladie universelle au Gabon. Il n'y a aucun problème pour se procurer des médicaments d'incontinence urinaire. On peut aussi tabler sur... D'ailleurs, quel que soit le type de traitement qu'on doit faire, il faut d'abord parler de traitements physiques, c'est-à-dire la
rééducation.
Les rééducations fonctionnelles, la kinésithérapie. Et qui, malheureusement... n'est pas très spécialisé dans le cadre de l'incontinence urinaire. Ce sont des kinésithérapeutes généralistes qui le font. Mais ça apporte des résultats.
Du coup,
il y a les traitements chirurgicaux. Oui. S'il y a une descente d'organes, par exemple, associée, c'est-à-dire que si le col de la vessie est descendu au-delà, donc en dessous du bassin, c'est-à-dire que de l'abdomen, à partir de là, nous pouvons remonter son col avec de la chirurgie.
Et est-ce qu'il existe des moyens de prévention au Gabon autour de ces troubles très handicapants ?
Oui, les moyens de prévention, en fait, globalement, il y a l'éducation sanitaire. L'information médicale n'est malheureusement pas... C'est ce qui est un peu le problème des pays africains, et notamment chez nous, c'est l'information médicale. Le rôle de la faculté de médecine, par exemple, le rôle des sages-femmes, le rôle des médecins généralistes. Je pense que il y a une information insuffisante sur le plan de la formation même médicale au niveau de nos facultés, par rapport à l'incontinence urinaire d'effort. Et au niveau de nos sages-femmes, par exemple. La prévention, il faut le dire spécifiquement, sur la faiblesse du périnée, soit avant, pendant et après l'accouchement, c'est très important. Et nous avons relevé quelque chose sur le plan culturel chez nous, c'est qu'il y a des femmes qui font des pratiques de l'eau chaude après l'accouchement. Je ne sais pas ce que ça apporte, nous n'avons aucune étude là-dessus, mais je pense que ça participe au renforcement du périnée après... l'accouchement.
Après l'accouchement. Docteur Jean Massandé, quel message, peut-être même de sensibilisation, souhaitez-vous adresser à nos auditeurs ?
Bon, la première chose, c'est que il faut renforcer l'information médicale à travers des structures qui existent déjà. Je parle du cas du Gabon, nous avons des structures qui sont au sein du ministère qui prennent en charge ce genre de la mère et l'enfant. Ce qu'on appelle la protection maternelle et infantile, les services de santé maternelle et infantile, toutes ces structures doivent avoir l'information exacte par rapport à ces problèmes de pathologie. Le renforcement aussi des enseignements au niveau de la faculté, je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement au niveau de la faculté de médecine et puis des sages-femmes, Et puis la vulgarisation au niveau des médias. Malheureusement, nous constatons que dans nos médias, c'est-à-dire à la télévision comme à la radio, il y a de moins en moins de
d'émissions qui parlent de ça.
D'informations, c'est-à-dire, voilà, d'émissions médicales et de santé qui puissent permettre à nous, les acteurs de la santé, de donner l'information. Heureusement qu'il y a des médias comme les vôtres, et je vous en remercie.
C'est un plaisir, en tout cas, dans Priorité Santé. On a été ravis d'écouter toutes vos précisions, docteur Jean Massandé. Je rappelle que vous êtes chirurgien, urologue, andrologue et chef de service d'urologie du centre hospitalier de Libreville au Gabon.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Emmanuel Chartier-Kessler, on n'a pas encore abordé la question du traitement. On l'a un peu évoqué avec le docteur Jean Massandé. On a dit qu'il y avait deux sortes d'incontinence, l'incontinence à l'effort et l'incontinence par impériosité ou urgenterie, oui, si j'utilise le terme. Urgenturie, voilà. Quels sont les traitements de base, du coup? On va commencer peut-être par là.
Voilà, les traitements de base, c'est dans les deux types d'incontinence, la rééducation périnéale est toujours utile et efficace. Dans l'incontinence d'effort, le but est de renforcer le réflexe qui permet d'avoir une bonne contraction du périnée au moment d'un effort pour prévenir la fuite alors qu'on va faire un effort. La rééducation chez les femmes qui ont une incontinence peu gênante après des accouchements, 50% des femmes rééduquées vont trouver que ça les améliore suffisamment pour en rester là et entretenir par elles-mêmes le travail périnéal qu'elles ont appris chez le kinésithérapeute.
Et les hommes aussi rééduquent leur périnée ?
Les hommes peuvent rééduquer leur périnée. Alors, comme l'a évoqué mon confrère du Gabon, l'incontinence masculine est très souvent liée à la pathologie prostatique et aux chirurgies prostatiques. Et la majorité des incontinences après chirurgie de la prostate sont des incontinences par défaut de sphincter, défaut de muse, défaut de retenue. Et donc dans ces cas-là, la rééducation chez l'homme est faite comme chez la femme, où on apprend à la fois le renforcement des muscles du périnée, et surtout on apprend ce qu'on appelle la coordination entre les muscles de l'abdomen et du périnée. Quand un patient tousse, il faut qu'il contracte le périnée et qu'il relâche l'abdomen. S'il contracte l'abdomen au même moment, il aggrave les pressions sur le périnée.
Il faut bien connaître son corps.
Il faut bien connaître son corps, et c'est là le rôle du professionnel de santé qui est le kinésithérapeute, c'est qu'il va non seulement apprendre le renforcement, mais réapprendre des réflexes qui sont quelquefois, bien sûr, pas connus des patients, mais surtout inversés. C'est ce qu'on appelle l'inversion de commande. Et rien que ça, ça peut prévenir beaucoup de troubles.
Il y a une rééducation en fonction de l'âge ou alors
Non, ça peut être fait à tout âge. Le problème de la rééducation, c'est qu'il faut être motivé. La motivation vient de la gêne liée à l'incontinence. Chez les femmes, globalement, qui sont très gênées par leur incontinence, on ne proposera pas de chirurgie de l'incontinence d'effort si elles n'ont pas de rééducation avant, notamment pour vérifier ce problème d'inversion de commande. Chez les hommes, c'est pareil, ils feront de la kinésithérapie. La rééducation chez l'homme, ça permet d'accélérer la récupération de la continence après une chirurgie de prostate qui aurait généré cette incontinence. Mais ça ne permet pas de guérir complètement l'incontinence quand les patients ont un sphincter qui est trop déficient. Donc ils auront de la chirurgie derrière, comme chez les femmes.
Et généralement, il y a un temps à cette éducation. Est-ce que ça dure une année ou alors c'est sur quelques mois, tout simplement?
Une rééducation, généralement, c'est une dizaine de séances qu'il est conseillé de faire à deux séances par semaine pour que, étant groupé, le travail soit bien appris et surtout que l'apprentissage permette que le patient l'entretienne lui-même après à domicile. Il y a des tas d'outils pour maintenir la rééducation par soi-même sans avoir à refaire appel au kinésithérapeute.
Vous aviez évoqué tout à l'heure la chirurgie qui n'est pas forcément systématique. Mais alors, quand est-ce que le geste chirurgical est nécessaire?
Alors, prenons l'exemple de l'incontinence féminine à l'effort, qui est la plus classique. Après rééducation, si la patiente se trouve toujours gênée, elle est obligée de porter des protections, elle ne fait plus son jogging, elle ne peut plus porter ses enfants parce qu'elle a des fuites, là, il y aura la place pour la chirurgie. Et la chirurgie d'incontinence d'effort, le plus souvent, consiste à, comme l'a évoqué mon collègue, à remettre l'urètre et le col vésical à sa place. C'est-à-dire que c'est une descente de l'urètre et du col vésical qui ne se ferme plus à l'effort. Et donc, on va le soutenir. Et la chirurgie la plus conventionnelle aujourd'hui, ce sont des bandelettes qu'on met par voie vaginale. Ça se fait en hôpital de jour et qui vont permettre de rétablir la continence. Aucune chirurgie n'est faite sans un bilan préalable chez le spécialiste qu'est l'urologue pour comprendre et vérifier que c'est bien ça le mécanisme d'incontinence chez cette patiente.
Et la plupart du temps, après la chirurgie, le problème est souvent...
Voilà, s'il n'y a pas d'autres maladies associées, le plus souvent, cette chirurgie marche très bien et 90% des dames sont très contentes.
On a patient qui nous appelle en ligne de Bukavu, en République démocratique du Congo. Patient, bonjour. Bosco ? Ah, c'est Bosco qui nous appelle. Bosco, pardonnez-moi, Bosco nous appelle en direct du Rwanda. Bosco, bonjour.
Oui. Bonjour, madame.
Bosco, on vous écoute.
Bien, ça fait 35 ans que je suis fidèle auditeur de Priorité Santé depuis Colette Berthaud et sans tarder, voici mes questions.
Merci pour votre fidélité, Bosco.
Voilà. Moi, mon problème, c'est que... quand j'ai envie d'aller aux toilettes, eh bien, je dois le faire dans les 30 secondes. Je dois dire au professeur que j'ai 64 ans et c'est depuis une année que j'ai ce problème-là. 30 secondes, il faut que j'aille vite aux toilettes. Est-ce que, en dehors de toute autre pathologie, est-ce que le problème de l'âge peut être à la base de ça? Ça, c'est la première question. La deuxième petite question, c'est que quand je prends mon petit déjeuner, je prends 2 tasses de thé. Et quand le moment d'uriner commence, c'est toutes les 5 minutes. Et pourtant, quand j'y vais, j'ai l'impression de vider correctement ma vessie. Mais toutes les 5 minutes, il faut que j'aille jusqu'à ce que le thé pris soit complètement terminé. Je voulais demander au professeur si c'est normal d'y aller toutes les 5 minutes. Alors, pour moi, ce qui me concerne, la dernière petite question, le temps de miction normal. Parce que l'hygiène de vie, on nous recommande de prendre 1,5 litre d'eau par jour. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas ça parce qu'ils disent... On doit tout le temps aller aux toilettes.
Très bien.
Il y a une solution à ça.
Donc Bosco, voilà. Vous exprimez très bien vos symptômes et je vais les reprendre dans l'ordre. Donc vous vous plaignez d'une envie pressante d'uriner et vous exprimez très bien ce qu'on appelle nous le délai de sécurité, le délai entre l'envie et l'apparition de la fuite si vous n'êtes pas aux toilettes. Alors à votre âge, la première chose à faire, c'est de vérifier avec votre médecin que vous n'avez pas de maladie de la vessie elle-même, hein, parce que si la vessie est irritée par un polype, un calcul ou quoi que ce soit, ça peut donner ces symptômes-là. Vérifiez que votre vessie se vide bien, et ça c'est la prostate, donc votre médecin vous examinera, il fera un toucher rectal et puis probablement une échographie pour vérifier que ça se vide bien. Et puis bien sûr, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vérifiez qu'il n'y ait pas d'infection urinaire. J'ai beaucoup aimé votre remarque sur le thé. Le problème des boissons, c'est qu'il faut qu'on en accepte parfois les conséquences. Et donc, tout volume ingéré sera uriné. Le thé a 2 particularités. Le thé est diurétique, donc il va favoriser une production d'urine importante. Et puis, il y a dans le thé des composants qui peuvent stimuler un peu la paroi vésicale et du coup, favoriser les envies pressantes, surtout si votre vessie est déjà un peu sensible à ça. Et donc, les patients qui souffrent du symptôme que vous décrivez très souvent réduisent de même la consommation de thé, café, épices qui peuvent générer le symptôme. Mais ce n'est pas dangereux en soi. Donc, si vous aimez le thé, vous pouvez continuer, mais il faut assumer d'aller aux toilettes pour ça.
Bosco avait aussi demandé, est-ce qu'il y a un temps normal, en tout cas, pour uriner?
Oui, alors Bosco, en fait, pose la question de quel est le fonctionnement normal du nombre de mictions. Alors, normalement, un individu qui vit en milieu tempéré urine 1,5 litre par jour, minimum. Et donc, c'est 6 à 8 mictions sur 24 heures. Et le temps pour uriner, c'est généralement 30 secondes au maximum quand tout va bien et qu'on n'a pas de troubles de vidange et qu'on n'a pas de problème prostatique. Si le temps s'allonge beaucoup, il faut se poser la question d'un obstacle.
Merci beaucoup pour votre appel, Bosco. Et surtout, peut-être consulter, c'est bien ça, professeur?
Absolument.
On a aussi Issif qui nous a laissé un message sur Facebook et a demandé comment expliquer que les incontinences urinaires soient fréquentes chez les vieilles personnes. Alors, on a eu Bosco qui a 64 ans, Mathias qui a 55 ans. Bon, ils ne sont pas forcément âgés, très âgés, mais est-ce que ça touche finalement tout le monde?
Oui, la vessie, les systèmes sphinctériens, les muscles vieillissent comme le reste de l'organisme. Et effectivement, surtout dans des pays occidentaux comme les nôtres où l'espérance de vie s'allonge, on voit les problèmes liés à l'âge. Et la vessie en vieillissant peut être plus sensible au remplissage et on a des envies pressantes, peut moins bien se contracter, donc ne pas se vider complètement. Et le système de retenue, les sphincters sont moins bons. Tout le monde a constaté qu'avec l'âge, on n'avait pas la même force musculaire. Le périnée, c'est pareil. Donc, on est obligé d'accepter ces phénomènes, mais on peut les compenser par la kinésithérapie, par certains médicaments et par une adaptation aussi des boissons et des heures de miction.
Alors, on va prendre une dernière auditrice en ligne. Maïmouna nous appelle d'Abidjan. Maïmouna, bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous votre problème et puis posez votre question. On a juste 2 minutes avec le professeur Chartier-Kessler.
D'accord, merci. Bon, moi, mon problème est que j'urine aussi fréquemment, mais j'ai eu à consulter un neurologue, il m'a fait faire des radios. Il s'est trouvé que c'est ma vessie, les ligaments qui soutiennent la vessie, là, ils sont devenus défaillants. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, j'ai envie d'uriner. Et puis, quand je m'en vais uriner, dès que je me lève de la cuvette, je sens encore que je veux uriner. Mais quand je m'assois, rien ne sort. Je suis obligée de forcer. Souvent, c'est une goutte.
Oui.
Donc, ça m'a donné même des hémorroïdes. Et puis, bon, le médecin a dit qu'il fallait m'opérer pour mettre la vessie en place. Mais j'ai un peu peur parce que j'ai déjà été opérée 3 fois. Donc, d'une césarienne et puis de 2 fois des choses.
Très bien, Maïmouna. Donc, vous résumez très bien ce qui ressemble à une chute d'organes et à une chute de votre vessie. C'est-à-dire qu'effectivement, ces ligaments qui tiennent la vessie et l'urètre ont lâché. Et effectivement, il n'y a pas d'autre solution que la chirurgie quand ça a lâché. Et je vous invite à suivre les conseils de votre urologue qui m'a l'air d'avoir fait un bon diagnostic. Quand vous dites que vous n'arrivez pas à uriner alors que vous êtes assise aux toilettes, très souvent c'est parce que la vessie est basculée à cause d'une chute d'organes et il faut remonter les organes pour arriver à bien uriner. Il n'y a pas d'autre solution que la chirurgie si c'est vraiment ça dont vous souffrez. Donc je crois à vous entendre que vous pouvez faire confiance à votre urologue et vos fibromes ou votre césarienne, c'était une autre histoire. Et je pense qu'il faudra peut-être accepter la chirurgie si vous voulez t'améliorer.
Merci pour votre appel, Maïmouna. Professeur Emmanuel Chartier-Kessler, on arrive presque à la fin déjà de cette émission. Est-ce que vous pouvez conclure avec un mot de la fin?
Oui, le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'incontinence, on a fait d'énormes progrès diagnostiques. On a des outils très simples. L'urodynamique est disponible chez tous les urologues. Le catalogue mictionnel peut être fait par tous les patients. Et l'évaluation est aujourd'hui très précise pour comprendre le mécanisme de chaque incontinence pour chaque patient. Donc le premier message, c'est qu'un patient qui souffre d'incontinence, il faut qu'il comprenne qu'on va en chercher le mécanisme parce qu'on ne traite bien que ce qu'on a compris. Et le deuxième message, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'incontinence par urgenturie, qui est la plus gênante, on a quand même fait d'énormes progrès dans les nouvelles thérapies. On a la toxine botulique qu'on peut utiliser dans la vessie. On a les techniques de neuromodulation, qui sont les techniques de stimulation électrique du système nerveux pour contrôler la vessie. On a, bien sûr, chez les handicapés, des chirurgies plus lourdes qui permettent de les améliorer notablement. Donc, tout cet arsenal permet que pour chaque patient, on puisse adapter le traitement. Et c'est ça mon message final, c'est pas l'incontinence pour tout le monde, c'est chaque patient a son incontinence et chaque incontinence de chaque patient a son propre traitement.
Merci infiniment, professeur Emmanuel Chartier-Kessler. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur à Sorbonne Université.
Merci.
Priorité santé sur RFI.
Cette année, l'Institut Pasteur célèbre ses 130 ans. Depuis sa création en 1888, suite au succès du vaccin contre la rage, l'Institut Pasteur n'a cessé de remporter des victoires pour la santé humaine. Et le docteur Noël Tordeau, directeur de l'Institut Pasteur de Guinée, est en ligne avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors dites-nous, que retenez-vous de cet héritage scientifique du modèle pasteurien ?
Il y a plusieurs choses à retenir. En fait, depuis Louis Pasteur, on suit la même philosophie qu'il avait lui-même insufflée, à savoir, j'appellerais ça le trépied pasteurien. Le trépied pasteurien, c'est dans un premier temps former les gens, et actuellement ça se décline par énormément de cours qui concernent des personnes qui proviennent du monde entier, et qui viennent se former soit à l'Institut Pasteur, soit dans un des 32 instituts du réseau. Le deuxième point, c'est santé publique. Comme vous l'avez dit au départ, sur la création de l'Institut Pasteur, ça se focalise sur la rage, mm-hmm. puisque Pasteur a trouvé le vaccin contre la rage. Et ensuite, ça devient du diagnostic. Vous savez que l'Institut Pasteur, notamment les Instituts Pasteur de Paris et Lyon, ont été au premier plan pour diagnostiquer Ebola en Guinée. Et puis, c'est de la recherche, parce que on ne peut pas rester compétent en matière de santé publique si on ne développe pas en permanence des nouveaux axes de recherche qui permettent de faire avancer, d'avoir des nouveaux outils qui ensuite retombent sur l'utilisation de classique pour pouvoir faire du diagnostic, par exemple.
Mmh. Et toujours dans cette continuité d'héritage scientifique, on a le premier laboratoire de l'Institut Pasteur de Guinée qui a été inauguré en octobre dernier. Alors, c'est une institution publique guinéenne avec un statut particulier. Expliquez-nous sa mission.
Donc la mission de l'Institut Pasteur de Guinée, tout d'abord, il faut rappeler que c'est une demande de la Guinée au moment d'Ebola, lorsqu'il y avait crise. Et donc l'Institut Pasteur a accepté de monter un laboratoire. Je vous ai dit, il y en a 32 dans le monde. Et dans le modèle récent, ces laboratoires, ces instituts sont en fait des instituts nationaux. Et donc j'ai l'honneur d'aller essayer de monter celui de la Guinée, qu'on a inauguré en fait il y a deux semaines de ça, ou du moins le premier laboratoire, il y a un deuxième institut qui se crée à côté. Mm-hmm. Et donc le but, c'est de venir en aide aux populations, hein. C'est un peu la philosophie, je disais tout à l'heure, de l'Institut Pasteur. Et donc, dans le cas particulier, on va se focaliser plutôt sur les zoonoses dans un premier temps, c'est-à-dire les maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme. Ebola en est un bon exemple. Il y a la rage dont vous citiez que vous citiez avant, et pas seulement les zoonoses. Il y a aussi des maladies spécifiques endémiques dans la population humaine, la rougeole, les hépatites, qui vont nous intéresser aussi.
Et le laboratoire a tout récemment accueilli aussi des étudiants pour une première formation à la détection de sérologie et moléculaire de la fièvre aphteuse notamment. Comment va s'articuler cette formation ?
Donc, typiquement, depuis qu'on est arrivé ici et avant même qu'on ait un laboratoire, donc il y a 2 ans que je suis en Guinée, on a monté des cours. Mm-hmm. Des cours pour détecter des jeunes talents guinéens, parce que le but, c'est d'essayer de former les talents guinéens qui vont venir travailler à l'Institut Pasteur, et pas seulement à l'Institut Pasteur, aussi dans d'autres instituts. Donc on organise des cours en collaboration proche avec l'université Gamal Abdel Nasser, à côté de laquelle nous sommes situés, c'est la grande université guinéenne, en faisant intervenir des enseignants guinéens. C'est notre but, c'est de toujours essayer d'intégrer et d'améliorer la santé, de renforcer les capacités en fait. Et donc ces étudiants, pour la première fois, on a pu les former dans notre laboratoire que nous venons d'inaugurer, c'est-à-dire que les étudiants manipulent dans les mêmes conditions que les chercheurs qui vont utiliser ensuite le laboratoire pour en faire de la recherche. Donc voilà, c'est un peu la philosophie que nous développons en ce moment.
Et 130 années célébrées cette année, comment voyez-vous l'Institut dans 10 ans ?
L'Institut dans 10 ans ou dans 260 années. En fait, l'Institut Pasteur, c'est quand même une philosophie, une manière de voir la santé publique et de rendre service aux populations avec beaucoup de générosité et d'ailleurs leur longévité. Hein. Il faut bien savoir que le premier institut du réseau Pasteur, qui était à Saigon à l'époque, hein, au Ho Chi Minh City maintenant, a été construit 2 ans après l'Institut Pasteur de Paris.
Ouais, merci beaucoup Noël Tordeau. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Pasteur de Guinée. Priorité santé touche à sa fin. Merci à mon équipe, à Sitoussa Maquet, Ophélie Lassen et Didier Bleu. Demain dans Priorité santé, retrouvez Caroline Paré qui vous parlera de Lyme. Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.